Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, Marianne Paquette derrière le micro. Heureuse de vous retrouver en ce début d'après-midi. C'est l'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Eh bien, on en parle souvent dans le cadre de cette émission. Il y a encore au Québec, en 2016, des populations qui ne reçoivent pas, et ce pour différentes raisons, tous les soins, tous les services requis. Quand je dis différentes raisons, c'est difficile d'identifier. Hein. Ça peut être des barrières qui sont culturelles, des barrières linguistiques, le contexte socio-économique, aussi parfois dû à l'éloignement, donc un facteur géographique. Donc, vous voyez, multiples facteurs, difficile d'identifier une cause pour expliquer ces inégalités entre les populations, mais encore plus difficile de se pencher pour tenter de les réduire. Peut-être qu'une partie de cette réponse nous vient de nos futurs soignants, de nos futurs pédagogues, des intervenants qui seront amenés dans l'avenir à travailler sur les premières lignes, que ce soit en santé, en éducation, et à œuvrer auprès de ces clientèles dites vulnérables ou marginalisées. Aujourd'hui, un sujet, donc, vous voyez, il est plutôt vaste. Quatre intervenants, Christine Ouellette et Émile Lemoine, tous deux étudiants en médecine du côté de l'Université de Montréal et qui ont collaboré au programme In Community. Également, Josiane Robert, qui, elle, est la directrice du Centre L'Extension, accompagnée son étudiante, Katharina Mamprin. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Un studio bien chargé aujourd'hui. Bienvenue. Merci d'être là. On va vous présenter un petit peu plus précisément. Christine Ouellette, vous êtes étudiante en médecine. Vous avez été également anciennement coordonnatrice nationale de ce programme In Community, accompagnée de Émile Lemoine, qui lui a complété ce stage-là en 2015. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Également, Josiane Robert, vous êtes, oui, cette directrice du Centre L'Extension de l'Université de Montréal, mais également orthopédagogue et professeure adjointe à la même université.
Oui.
Et Katharina Mamprin, qui est étudiante et stagiaire en orthopédagogie.
Oui, en fait, j'ai complété le stage à l'extension la session dernière.
Ah, alors, vous êtes bien placée pour nous en parler aujourd'hui. Donc, j'ai choisi ce centre qui est l'extension, également ce programme In Community, parce que ces deux programmes s'intéressent à la formation au stage d'étudiants, que ce soit en orthopédagogie, en médecine, auprès de clientèles dites marginales ou vulnérables. On va commencer par In Community. En quoi consiste ce programme-là?
En fait, In Community, c'est une immersion en communauté négligée au Québec. C'est parti, dans le fond, d'une initiative étudiante en 2011. Deux étudiants en médecine, Anne-Sophie Thomeray-Carrière puis Marc-André Lavallée. Puis, dans le fond, c'est une immersion de 4 semaines pendant l'été. Dans le fond, c'est un stage qui est non obligatoire. C'est pour des étudiants en médecine de première et deuxième année. Puis, c'est vraiment, dans le fond, pour aller rejoindre des populations qu'on dit négligées en situation de vulnérabilité, dans le fond. Puis ça a été fait parce qu'on trouvait que sur les bancs d'école, il manquait cet apprentissage-là, dans le fond, vraiment, d'aller les chercher puis de comprendre un peu puis de briser les préjugés par rapport à ces populations-là. Mm-hmm. Puis pour nous, des populations vulnérables, c'est des populations qui, par leurs déterminants sociaux de la santé, ont un écart de santé avec le reste de la population.
Mm-hmm. Du côté de l'extension, on parle de 2010, je pense, l'implantation de ce centre-là.
En fait, c'est parti d'un rêve ou d'une idée de la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation, Louise Poirier, de dire comment on pourrait mieux former nos étudiants, à la réalité montréalaise, mais aussi comment offrir des services aux populations, peut-être en milieu défavorisé. Il ne fallait pas regarder très loin. On regarde l'Université de Montréal pour avoir un œil sur l'extension, mais sur Parc Extension, vous avez compris le lien entre les deux. Donc, c'est ça, c'est d'offrir des services orthopédagogiques. Puis plus tard, il y a eu d'autres facultés qui se sont jointes à nous, soit la Faculté de médecine dentaire, mais l'École d'optométrie également. de l'Université de Montréal pour offrir des soins de services et éducatifs accessibles à la population ainsi qu'un accompagnement global là, mm-hmm. à la population.
Vous en êtes la directrice, Josiane. Oui. Est-ce que vous coordonnez également les étudiants issus des deux autres facultés?
Non, moi, je m'occupe principalement du centre en orthopédagogie, donc des services orthopédagogiques qui vont être offerts aux élèves de l'école, mm-hmm. mais du quartier également.
Christine, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant en lien avec les préjugés. Est-ce que les préjugés des soignants, des pédagogues peuvent avoir un impact sur la santé de ces populations-là?
En effet, je pense qu'il y a un impact. C'est peut-être pas le principal impact, mais déjà, c'est des populations qui sont vulnérables, qui, par plein d'autres facteurs, leur éducation, niveau socio-économique, sont déjà un écart de santé. Donc là, si on rajoute les préjugés des intervenants du milieu de la santé, en plus de ça, ça peut avoir un impact supplémentaire, puis ça va faire qu'ils vont avoir des gens qui vont aller rechercher des services de santé, vont avoir une vision négative puis vont pas vouloir retourner dans ce milieu-là. Mm-hmm. Donc, moi, j'en vois tous les jours dans mes stages, là, des médecins ou d'autres intervenants qui ont des préjugés négatifs puis clairement que ça a un impact sur les soins. Mm.
Je pense que l'un des objectifs de l'extension, Josiane, c'était aussi de sensibiliser ces futurs pédagogues, ces futurs éducateurs à ces préjugés-là et à leurs impacts, de dire, écoutez, ces clientèles-là ont des besoins aussi et ils sont tout charmants.
Oui, ils sont adorables, effectivement. Mais oui, de former les étudiants à cette réalité-là et de dire qu'effectivement, ils ont des besoins, mais ils méritent d'être vu, d'être entendu, mais qu'on intervienne auprès de ces populations-là, effectivement. Mmh. Puis de casser ces préjugés-là aussi des milieux peut-être plus qui vivent de la pauvreté et autres, mais d'en prendre soin également, mais d'en prendre d'autant plus soin, effectivement.
Caterina, Émile, est-ce que, bon, de par vos stages, que ce soit à l'extension, que ce soit du côté d'une community, vous avez été choquée au contact de ces clientèles-là?
Non, moi, je pense que c'est vraiment une bonne façon d'entrer en contact avec eux parce que souvent, ça va être dans une classe, on va en avoir un ou deux qui sont turbulents, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas qu'est-ce qui va fonctionner avec eux, mais comme on est vraiment un à un pour l'extension, on peut vraiment voir l'enfant, mais voir aussi toutes les difficultés, mais vraiment l'enfant dans sa globalité. Mm-hmm. Donc, on a le temps de s'attarder à cet enfant-là, on a le temps de s'attarder à sa culture, de s'attarder à sa langue maternelle, de s'attarder à vraiment comprendre les systèmes autour de cet enfant-là, puis comprendre l'impact, l'influence de tout ce qui est autour, de son parcours migratoire, des choses comme ça. Donc, on comprend beaucoup mieux l'enfant. Et après, on a une vision qui est beaucoup plus large là, sur les autres enfants, puis qui pourrait être transposée dans une classe par la suite ou dans un plus grand groupe.
Ou dans des consultations privées, si jamais.
Exactement.
Oui. Mm-hmm. Émile?
Oui, exactement. En fait, on se rend compte, au contraire, on n'est pas choqué du tout. On se rend compte que ces gens-là sont complètement similaires à nous. Puis, dans le fond, ils ont eu une expérience de vie qui était différente. Ils ont comme Christine l'a mentionné tantôt, il y a des facteurs qui ont influencé leur parcours, qui sont peut-être plus grands qu'eux, puis qui les ont amenés à se ramasser dans cette espèce de précarité-là, puis dans cette situation sociale-là. Puis on se dit peut-être que nous-mêmes, on aurait été dans cette situation si on avait été dans le même environnement. Donc, ça nous amène à vraiment, comme on le dit depuis tout à l'heure, là, c'est vraiment approcher le patient vraiment plus globalement, puis de prendre en compte pas juste sa maladie, mais effectivement son vécu, puis sa situation.
Donc, cette sensibilité, cette compréhension vous amène à être de meilleurs intervenants.
On le souhaite.
En tout cas, ça peut pas nuire.
Non, oui. Voilà.
Je retourne à une community. Vous vous intéressez, oui, à des clientèles dites vulnérables, dites marginalisées, mais il y a quatre axes principaux de votre côté.
Donc, en fait, oui, exactement. Il y a une partie qui est avec la population urbaine. Donc là, on parle de des problèmes de toxicomanie, travail du sexe, l'itinérance. Puis il y a trois autres volets, par contre. Il y a le volet aussi migrant. Donc là, c'est les nouveaux arrivants, les personnes ou même de plusieurs générations, mais qui ont des problèmes liés à justement leur arrivée au Québec, l'accès aux soins par rapport à ces problématiques-là. Puis aussi le langage, les barrières de langage, les barrières culturelles aussi. Mm-hmm. Il y a la troisième population, c'est la population des contrevenants. Donc là, en milieu carcéral et au-delà, donc après, avant, donc ces populations particulières. Puis finalement, la population autochtone. autant dans la communauté urbaine à Montréal que dans les communautés, les réserves, puis leur milieu de vie à l'extérieur de l'île aussi.
Donc, dans le cadre des stages, ça vous amène à aller parfois dans des réserves, à aller rencontrer les personnes issues de communautés autochtones.
Oui, en effet, mais l'étudiant doit choisir entre ces quatre populations-là.
Ah oui,
donc,
OK.
Donc, l'étudiant a vraiment une expérience complète avec une de ces populations-là.
Mm-hmm.
Puis, je dois dire aussi, le stage est à l'Université de Montréal, mais il est aussi à l'Université McGill, puis à l'Université Sherbrooke. Puis, à l'Université Sherbrooke, il y a deux campus, Saguenay, puis à Sherbrooke-la-Ville. Donc, à Saguenay, c'est plus un amalgame de toutes ces populations-là. Puis, à Sherbrooke, il y a population urbaine et population des femmes et des enfants aussi.
OK. De votre côté, Centre L'Extension, vous travaillez étroitement avec les familles. Donc, il y a le contexte lié à l'enfant, mais il faut apprendre à communiquer, à travailler en collaboration avec les parents de ces enfants-là. Ça se passe comment?
Eh bien, Catherine, est-ce que tu
veux... Oui, c'est sûr qu'il faut entrer en contact avec la famille. La famille n'est pas toujours facile, pas facilement accessible, soit à cause de la barrière linguistique, justement, mm-hmm. ou encore... Juste la place de l'école, tout dépend de la culture et tout, peut changer aussi.
Mm-hmm.
Donc, des fois, c'est difficile pour ces parents-là de savoir quel rôle a l'école dans la culture ici, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aider leurs enfants et tout. Donc, c'est de revoir un peu comment on entre en contact avec eux, comment on leur explique, comment on va les chercher, parce qu'en même temps, l'école... représentative aussi de la culture et comme un levier est un pont. Donc, on peut vraiment faire un lien entre la communauté, l'école, l'enfant. C'est vraiment la façon pour eux de s'intégrer dans une communauté parce que c'est une... Par l'enfant, ils entrent en contact avec la culture d'ici, finalement. Là.
Mm-hmm. Mm-hmm. Où est situé le Centre L'Extension?
Présentement, on est situé à l'école Barclay, qui est une des quatre écoles primaires de Parc Extension. Mais on tend à vouloir, dans une deuxième phase du projet, à avoir notre propre lieu à nous pour pouvoir intervenir et offrir nos services à l'ensemble de la communauté. Là.
Mais là, vous êtes vraiment dans le poumon là, de Parc
oui.
Extension qui, on doit le rappeler, est oui, un quartier qui est défavorisé, mais également pluriethnique. Donc, ça engendre tous les défis que l'on peut imaginer. Justement, parlant de défis, parlant de difficultés, tout à l'heure, vous m'avez dit non, on n'a pas été choqués, mais est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés de dire, OK, là, j'ai un nœud, je ne sais pas nécessairement comment je vais m'y prendre et de comment je peux adresser ça à mon enseignant, comment je peux être guidée parce qu'il y a cette particularité-là. Ce sont des stages, donc il y a toujours quand même vos profs qui vous accompagnent dans le parcours. Émile, peut-être?
Oui, bien en fait, c'est sûr qu'on arrive dans ces milieux-là, on est des étudiants en médecine, puis on est projeté dans ces populations-là, puis on a peut-être l'impression au début qu'on n'est pas à notre place, que on n'est pas la bonne personne pour les comprendre, puis peut-être on pense qu'eux, ils ont cette vision-là de nous, mais rapidement, on se rend compte que c'est pas ça du tout qui se passe, puis donc une fois qu'on réussit à créer un lien de confiance, là, tout à coup, ça devient super facile d'entrer en contact avec eux, puis d'avoir une conversation, puis d'apprendre de ces gens-là, puis ça, c'est principalement...
La première difficulté, l'approche, est se dire, je ne suis pas un imposteur, j'ai ma place ici, je peux aider ces gens-là, même si je ne comprends pas leur situation d'entrée de jeu.
Ouais, exactement.
Mm-hmm. Catherine?
Pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir les professeurs près de nous parce que tout dépendant de la difficulté de l'enfant ou des principales manifestations à l'école ou quand on le voit en individuel, on peut aller se référer directement à un spécialiste, finalement, de
oui.
ces difficultés-là et tout.
C'est vrai, ça.
Donc, on a vraiment des façons d'agir. On peut aller chercher ce qui est optimal, ce qu'on n'aurait pas nécessairement pensé, ce qu'on n'aurait pas nécessairement trouvé nous-mêmes par les livres, par ce qu'on a appris. Bon, on parfait notre formation comme ça. Donc, en ayant cet appui-là ou en sachant que cet appui-là est disponible, c'est bien parce qu'on vient combler les trous. On a vraiment une facilité aussi d'avoir accès. Bien, on a vraiment accès aux enseignants, aux professeurs là, qui vont nous aider, qui vont nous donner de l'information.
Ça change le rapport prof-étudiant, Josiane?
Bien, c'est sûr qu'on devient beaucoup plus... On a un contact plus privilégié avec nos stagiaires, compte tenu que, bien, on devient partie prenante de toute cette intervention-là qui se fait à travers les élèves, parce qu'effectivement, on suit leur progression, on suit leur réussite, leur bon coup, leur moins bon coup. À la blague, je dis souvent aux étudiants, tant au bac qu'à la maîtrise de dire « Allez faire des stages dans, auprès de populations auxquelles vous avez peur. » Parce que vous avez ce filet de sécurité-là de dire « Je vais être accompagnée là-dedans, je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir me guider et non pas attendre d'être sur le marché du travail et donc de vivre ces expériences-là. » Vivez-les avec des filets de sécurité, vivez-le encadrés et accompagnés.
Et de les éviter avec tous les impacts que ça peut engendrer pour la population.
Effectivement. Donc là, il y a peu de place à l'erreur. Oui, on peut avoir une intervention qui fonctionne moins bien, mais ça va être une intervention qui va durer 20 minutes, mais ça peut nous arriver en différents cas. Et par le biais du stage, bien, des amener à réfléchir aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que tu as pensé à tel aspect, tel contexte. Donc, c'est là que tout prend son sens aussi. Là.
Avant l'extension, Josiane, est-ce que vous-même, vous aviez été en contact avec ces populations-là?
Avec une partie de cette population-là, oui, mais aussi avec différentes populations, entre autres milieux autochtones et autres, là, oui.
Donc une variété. Les profs aussi apprennent au contact de ce centre-là.
Oui, oui. Donc, il y a de plus en plus aussi de profs qui viennent intervenir auprès de l'extension. En fait, il y a un club de lecture qui vient d'être mis en place par une prof aussi du département. Donc, il y a beaucoup de profs de la Faculté des sciences de l'éducation qui interviennent ou qui interviennent auprès de cette population-là, oui.
On va prendre tout de suite notre courte pause, le temps à tous de prendre une petite gorgée d'eau. Et puis, ben, on revient avec d'autres questions pour approfondir vos approches et vos missions.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Retour avec moi autour de la table pour cette discussion, cette grande question que l'on posait aujourd'hui. Comment on forme nos futurs intervenants en santé et en éducation pour travailler auprès des clientèles, des populations plus marginalisées? Et pour en parler, je suis très, très bien accompagnée aujourd'hui. Christine Ouellette et Émile Lemoine, tous deux étudiants en médecine à l'Université de Montréal et également participant au programme In Community. Également, Josiane Robert, elle, qui est directrice du Centre L'Extension, accompagnée de Katharina Mamprine, étudiante et stagiaire en orthopédagogie. On avait envie de revenir ensemble sur cette grande question. En fait, pourquoi on est tous réunis ici aujourd'hui? C'est pour parler des inégalités en matière de santé. Je pense que c'est tout un sujet qu'on trouve assez important, assez sensible aussi, parce que on est dans une société où la santé, l'éducation est dite démocratique, mais il y a énormément de besoins et d'écarts encore entre les populations. Tout d'abord, je vous lance cette perche. C'est quoi les impacts de ces écarts-là en matière de santé et d'éducation pour les individus?
Je peux peut-être commencer. Juste dans Parc Extension, si on regarde les chiffres, il y a entre 30, 5 % et 40 % de la population de plus de 15 ans qui sont sans diplôme. Donc, qui ne possèdent pas de diplôme, contrairement à 20 % de la population montréalaise. Près de la moitié de la population de Parc Extension vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même parlants et alarmants. Bon, près de 80 % qui ont une langue maternelle autre que le français et l'anglais. Donc, nécessairement, ça a des impacts sur l'apprentissage des élèves lorsqu'ils arrivent pour l'apprentissage de la langue française. Katharina pourra en parler. C'est sûr que nos interventions vont être teintées si l'élève nécessairement va présenter des difficultés dans l'apprentissage de la lecture ou l'écriture. Ben, je vais intervenir différemment que si je suis ailleurs, parce que si les bases du français oral ne sont pas acquises, ben même si je dis je t'apprends à faire une syllabe, ça ne fera pas de sens pour toi là. Donc c'est des chiffres qui sont alarmants, je trouve, et donc qui
lorsque l'on sait que on passe une rue, on change de quartier,
exact.
Et là,
avec
le portrait,
une clôture, oui,
le portrait devient complètement différent.
Oui,
oui. Christine, vous avez également, je pense, des observations en ce sens pour cette question.
Oui, par exemple, on peut prendre l'exemple du rapport du directeur de santé publique là, qui a rapporté il y a quelques années, dans le fond, une différence d'espérance de vie de 10 ans entre différents quartiers montréalais, là, du plus pauvre au plus riche. Donc ça, c'est comme un impact, je pense, qui est assez parlant, là, c'est frappant. On peut penser au taux plus élevé de suicide dans la population autochtone, un peu de problèmes de santé mentale, aussi notre population carcérale a beaucoup plus de problèmes de toxicomanie, par exemple, des problèmes d'hépatite C, VIH. Donc c'est plein d'impacts de santé là, qui sont clair, net et précis. Puis ça, c'est vraiment par rapport aux inégalités sociales de santé. Là, sans que ça soit en rapport notamment avec les soins qu'on leur offre, mais vraiment plus en amont. Qu'est-ce qu'ils ont eu avant, comme l'éducation, justement. Là, tout ça peut toucher. Oui.
Chiffres parlants et vos observations témoignent aussi. Mais en même temps, vous êtes là, tout jeune, en train d'apprendre et vous avez envie que les choses changent. Est-ce qu'il y a moyen de réduire ces impacts-là, de réduire les inégalités? Christine, elle fait oui de la tête.
Oui, ben en fait, il y a vraiment beaucoup de moyens de réduire les inégalités. Puis je pense qu'il ne faut pas justement se décourager. Là. Je pense que des fois, on est un peu accablé puis on se dit qu'il y a tellement de travail à faire. Mais justement, il ne faut pas lâcher prise. Puis je pense que concrètement, nous, en tant qu'étudiants, la première chose, c'est de s'informer. Dans le fond, c'est ça le plus important. Puis c'est ça notre projet, ce qu'il veut faire. C'est vraiment d'informer les étudiants, d'aller à la rencontre, briser les préjugés. Puis après, c'est de travailler avec ces populations-là, tu sais, de vraiment leur donner des soins concrètement. Mais je pense qu'au-delà de ça, en tant que médecin, je me rends compte justement que l'impact que je vais avoir mes soins sur leur santé est un peu minime parce que tout ce qui joue sur la santé de l'individu, c'est beaucoup plus que l'hôpital.
Donc, le médicament.
C'est ça, exactement. Donc, on parle d'éducation, de logement, de logement salubre, dans le fond, d'un salaire adéquat. Donc, je pense qu'un médecin, puis n'importe qui dans la société, doit avoir un rôle de citoyen, puis de vraiment faire des actions, puis choisir un gouvernement qui milite pour ça, dans le fond, pour une justice sociale.
Oui. Et en même temps, vous êtes conscient que vous aurez peut-être à le faire sur des collègues, éventuellement, qui seront plus expérimentés que vous et qui auront ces préjugés-là, ou des collègues que vous allez côtoyer, avec qui vous allez pratiquer. Et tout ça teinte, j'imagine, va teinter votre pratique, changer les intervenants que vous allez être. De quelle façon vous pensez que ça modifiera votre approche dans l'avenir? Émile.
Ben en fait, c'est ça. Donc, c'est important justement de retirer cette expérience-là pour devenir des acteurs de changement, comme vous avez dit, de jouer aussi, pas seulement sur notre pratique, mais sur la pratique de nos collègues, des personnes qui nous entourent, avec qui on va travailler plus tard. Parce que c'est pas seulement si on travaille avec cette population-là très particulière qu'on a un rôle à jouer. On choisit pas nos patients. Puis n'importe qui peut se présenter dans notre bureau, puis on doit être capable de lui donner le même niveau de soins qu'avec n'importe quel autre patient, peu importe que sa situation soit plus précaire ou pas. Donc je pense que c'est important vraiment de répandre la bonne nouvelle, dans le fond, de répandre cette façon-là de travailler, puis que ça soit la norme avec n'importe qui rentre dans le bureau du médecin.
Katharina, du point de vue de vos collègues, futurs collègues orthopédagogues?
Mais c'est sûr que les préjugés sont présents dans certains milieux. Il faut vraiment, en parlant, n'ayant pas peur de justement établir des cas, dire « bien, ça fonctionne comme ça, essaye quelque chose d'autre, essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas avec cet enfant-là d'une autre façon », on peut faire changer quand même la mentalité, si vous voulez, là, des orthopédagogues en général, parce que oui, on commence par Montréal, parce que ouais, oui, là, ouais, il y a beaucoup de
besoins.
Il y a beaucoup de besoins et tout, mais plus ça va, plus ben, les milieux plus ethniques sont plus seulement à Montréal. On en retrouve un peu partout. Les façons de travailler aussi avec les enfants, parce qu'on peut se fier sur la collaboration avec la famille et tout. On se fie beaucoup là-dessus. Mais avec des populations comme ça, c'est vraiment centré sur l'apprentissage de l'enfant. Donc, il faut vraiment aider l'enfant avec les moyens qu'on a, trouver, être créatif pour vraiment aider l'enfant, mais comme il est. Puis peut-être que la communication ne sera pas aussi facile. Mais cette communication difficile-là avec les parents, avec les autres intervenants autour de l'enfant, ça peut se retrouver dans n'importe quel milieu aussi. Donc, c'est une conscientisation que finalement, c'est pas si différent. C'est juste peut-être que ce qu'ils ont vécu est différent, peut-être que le contexte est différent, mais en même temps, les problèmes demeurent les mêmes. Ouais. Donc, c'est une façon de changer les problèmes, mais qui est aussi bien et pour les populations immigrantes ou pour les enfants défavorisés qui sont pas nécessairement à Montréal, là, qui peuvent être en région et tout. Ouais. Donc, c'est une façon de travailler, je pense. Il change.
Auquel il faut s'adapter. Et tous les intervenants en santé et en éducation auront à se confronter à ces défis-là. Les besoins des populations changent. Il reste 2 minutes. 2 minutes. Rapidement, Josiane, le Centre de l'extension a de nombreux défis. Le premier, peut-être, de vous faire connaître.
Oui. Oui, de se faire connaître, mais aussi le grand défi étant l'argent. Je pense que ça, c'est inévitable. En fait, dans une deuxième phase, on souhaite avoir notre lieu à nous pour intervenir auprès de l'ensemble de la population. Donc, nécessairement, ça prend des donateurs, ça prend des sous. C'est un des gros défis actuellement.
Vous avez une page Facebook?
On a un site Internet en devenir et une page Facebook en devenir également, mais sur... Donc, vous aurez l'information.
On vous réinvitera afin de pouvoir en parler. Josiane Robert, vous êtes directrice de ce centre L'Extension, également professeure adjointe à l'Université de Montréal et orthopédagogue, accompagnée de Katerina Mamprin, étudiante et stagiaire en orthopédagogie. Christine Ouellet, ça se passe bien pour une community. On n'aura peut-être pas le temps d'expliquer ce cours-là qui est obligatoire, mais quand même, je pense que la Faculté de médecine de l'Université de Montréal a compris l'importance du contact de ses étudiants avec des populations vulnérables et marginales.
Oui, effectivement. Maintenant, il y a un cours pour les 3e et 4e années, là, d'une semaine. Là.
Christine Ouellet, vous êtes étudiante en médecine à l'Université de Montréal, 4e année, ancienne coordonnatrice nationale du programme In Community, et Émile Lemoine, étudiant aussi à l'Université de Montréal en médecine, 2e année. Bon succès à vous tous. Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir.
Merci.
Merci Jean-Sébastien, la liberté derrière la console. C'était quand même un grand défi technique aujourd'hui. Marianne Paquette derrière le micro. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye-bye.